Dimanche matin. Voilà que commence ce jour de la semaine que beaucoup d'entre nous consacrent au repos, comme une pause dans une semaine chargée ou même dans des vacances bien occupées. Nous venons de notre propre gré vivre ici une parenthèse dans notre quotidien, voir le temps s'écouler autrement, nous suspendre à l'écoute de Dieu. Nous venons recevoir ici de quoi nourrir nos vies. Tel le pèlerin en chemin, laissant ses pas avancer à leur rythme, sans performance ni ligne d'arrivée, laissons-nous conduire dans la confiance. Posons tout ce qui nous encombre. Chassons de nos esprits les pensées inquiètes et laissons place pour accueillir les paroles de vie. De même que nous savons que la richesse du chemin n'est pas son arrivée, mais trouve sa source dans la joie de marcher, ainsi est notre marche ce matin. Libre et pleine d'espérance. Nous nous offrons en Dieu pour recevoir de lui ce qui nous mène vers l'avant. Ainsi, arriverons-nous, je le souhaite, à marcher vers tous ces autres qui nous entourent. Ainsi, arriverons-nous, je le souhaite, à marcher au plus profond de nous-mêmes pour rencontrer nos peurs, nos contradictions et nos incertitudes. Et nous verrons la bienveillance de Dieu. Nous verrons les signes de sa grâce en nous et autour de nous. Ce matin, c'est à la rencontre d'un homme et de deux femmes que nos pas vont nous mener. Un homme juif et chef. Une femme malade et anonyme. Une jeune fille à la porte de la mort. Ces trois-là, ce matin, cheminent aux côtés de Jésus et ouvrent pour nous une page de l'Évangile. Je vous invite à écouter la lecture de l'Évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43.
Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de synagogue, nommé Jaïrus, arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et lui demanda son aide avec insistance. « Ma petite fille est en train de mourir, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins et y avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux, au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Sa perte de sang s'arrêta aussitôt, et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef Jaïrus et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi dérangerais-tu encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Ils ne permirent alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une agitation bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et ses trois disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha cum », ce qui signifie « fillette, lève-toi, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda sérieusement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit, « Donnez-lui quelque chose à manger. »
L'homme a un nom, Jaïrus. Un nom lourd de sens qui veut dire en hébreu « Dieu rayonne ». Il est juif. Chef de synagogue, il détient l'autorité. La femme, elle, n'a pas de nom. Elle est malade. De ces maladies qui, dans la culture juive de l'époque, rendent impure et exclue de la société. Elle souffre de plus en plus, elle n'en peut plus. L'homme voit Jésus et se jette à ses pieds. La femme, qui a entendu parler de Jésus, vient derrière lui et le touche. L'homme, dans sa foi pieuse, supplie, parle, prie pour que sa fille qui va mourir puisse guérir. La femme croit pour elle-même, en silence, réfléchissant sans rien dire. Elle tente alors le tout pour le tout, le pari de la dernière chance. L'homme, respectueux des usages, conduit le maître chez lui. La femme fait fi de tout et se permet de se servir sur place. La jeune fille a 12 ans. La femme est malade depuis 12 ans. L'homme, en arrivant chez lui, apprend la mort de sa fille. La femme, dans son audace, est guérie sur le champ, au milieu de tous. Avec l'homme, Jésus maîtrise, invite, guide. Avec la femme, il est décontenancé, ne contrôle pas, questionne. L'homme qui parlait au départ ne dit plus un mot en arrivant chez lui. La femme, muette au départ, se jette aux pieds de Jésus et finit tremblante par avouer. L'homme est dans sa maison, rempli de ses proches. La femme est seule au milieu de la foule. Dans la maison pleine, certains reprochent à l'homme d'importuner Jésus. D'autres se moquent de Jésus parce qu'il dit pouvoir guérir la jeune fille. Dans la foule, les disciples reprennent Jésus qui cherche qui a bien pu le toucher. Dans la maison, Jésus rabroue tous ceux qui font du bruit. Dans la foule, il rassure la femme. Il ne la juge pas et la conforte dans son audace. Jésus fait exprès de toucher la jeune fille en lui prenant la main. Et Jésus a été touché par surprise par la femme. La jeune fille est guérie aussitôt. La femme est guérie aussitôt. Vous l'entendez, ce texte de double guérison est riche. Et il ouvre successivement de nombreux tiroirs. Entre l'homme, la femme et la jeune fille, jeu des ressemblances et des dissemblances. Lieu, action, parole, tout s'emboîte et se déboîte. Pour des textes comme celui-là, il nous faudrait des stabilos, des gommettes et des crayons pour mettre visuellement en relation les versets les uns avec les autres. Que nous dit ce texte ? Que nous disent ces trois personnages qui rencontrent Jésus ? Première chose à rappeler, s'il en est besoin, les miracles existent. Et deuxième chose qui lui succède, il n'y a pas une seule manière de demander, de vivre et de recevoir un miracle de la part du Dieu fait homme, Jésus-Christ. Il existe toute une palette de miracles. Cela est plutôt une très bonne nouvelle. Selon l'histoire, l'éducation, l'objet, la personnalité et la foi de chacun, le Dieu de Jésus-Christ peut opérer toutes sortes de miracles en nous et autour de nous. En revanche, de là à affirmer qu'au nom du Christ, nous pouvons nous-mêmes ici-bas solliciter et voir exaucer tous les miracles souhaités, il y a bien sûr plus qu'un pas. Notre Dieu reste mystérieux. Il est le tout autre. Et nul peut dire pourquoi il exauce celui-ci et n'écoute pas celle-là. Confier à Dieu nos soucis et ceux des autres dans la prière, c'est accepter d'entrer dans une posture d'humilité et de lâcher prise. Je sais ce que je demande, mais si je décide de lui confier vraiment mes soucis, je ne dois jamais prétendre avant ce que lui me donnera. Prier, c'est accepter de rencontrer la liberté de Dieu, que personne ne connaît. Dans notre rencontre aujourd'hui avec cet homme et ces deux femmes, ce qui est sûr et partagé avec nous est que s'approcher de Jésus le Christ et croire en lui peut changer une vie. Peut tout changer au point de nous guérir de ce qui nous fait souffrir et nous conduit vers la mort. Un autre éclairage de ce texte, pour guérir, nous avons besoin d'ardeur. Nous approcher du Christ, demander, supplier, prier, toucher et même crier. Toute une démarche physique, psychique et spirituelle est nécessaire. Tel un chemin de guérison dont nous sommes aussi les responsables. C'est la fameuse phrase « joindre les mains » en prière, ce n'est pas croiser les bras. Cette phrase dont je vous ai souvent parlé de mon professeur de théologie, qui nous explique que les mots ne suffisent pas, mais nous sommes appelés à vivre de tout notre être, cet appel que nous recevons. Aucune vie nouvelle n'est possible sans confiance et sans ardeur de notre part. Si nous prenons un peu de recul par rapport à ces guérisons, nous reconnaissons aussi dans ce texte l'éternel combat du Christ contre tous ceux qui défigurent l'être humain. Il y a une forme de guérison déjà présente dans la foi, dans le fait de laisser place à celui qui peut me combler de sa paix. Ici, la femme reprendra sa place dans la société dont elle était exclue, car impure. Et la jeune fille reprendra sa place dans la vie. Dans notre passage, vous l'avez remarqué, ce sont deux femmes qui sont guéries. Femmes, deux, chose incroyable pour l'époque. L'amour de Dieu le Père est si grand qu'il guérit même celles qui n'ont pas de statut parmi les autres, la femme et l'enfant à l'époque. La bienveillance de Dieu à l'égard de chacun est si grande qu'il appelle à s'approcher de lui tous ceux qui le lui demandent avec audace et confiance, pour les mettre debout. Et c'est le fameux « Talita cum » de notre texte, ces mots araméens dits par Jésus à la petite fille qui signifie « Petite fille, lève-toi » et c'est ici le même verbe que celui de la résurrection du Christ. Tout cela me mène à une dernière réflexion. Peut-être m'écoutez-vous et pensez que oui, vous faites bien tout cela. Vouloir guérir pour vous ou vos proches. Chercher Dieu sincèrement, le prier, le désirer de tout votre cœur. Mais pourtant, il vous semble sans résultat. Certaines personnes disent aussi « Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. » Grande question que celle de la volonté de Dieu. Nous avons chaque dimanche dans nos liturgies un petit temps appelé « Volonté de Dieu », anciennement « Loi de Dieu ». Nous l'avons intentionnellement modifié, et heureusement. Car en effet, aussi étrange peut-être que cela puisse vous paraître, Dieu ne donne aucune loi. Dieu ne donne aucun commandement. Il nous offre des paroles. Dans la traduction de l'hébreu, Dieu donne à Moïse les 10 paroles et non pas les 10 commandements. Cela change beaucoup de choses. Le Dieu biblique n'est pas un Dieu moralisant ou moralisateur qui nous surveillerait, tel un parent dont l'exigence viendrait à faire disparaître la bonté. Non, Dieu veut entrer en relation avec nous. Voilà le Dieu biblique. Il nous aime tellement qu'il veut vivre à nos côtés et nous donner la vie, gratuitement et sans rien nous demander en retour. Et ce, non pas pour faire de nous des êtres exemplaires et parfaits, mais pour nous montrer le chemin qui guérit. Dieu nous parle pour nous conduire vers la vie, pour nous mettre debout, pour nous ressusciter à ses côtés. Alors, que veut Dieu pour moi et pour mes proches? Que me demande Dieu pour ma vie? Que doit faire une personne qui écoute la volonté de Dieu? Que veut Dieu pour mon Église? Quand je me pose toutes ces questions difficiles, mais légitimes, comme je suis chrétienne, j'ouvre les évangiles. Car je crois que c'est ici que je peux rencontrer le Dieu fait homme. Qu'est-ce que je lis dans les évangiles? Je ne vois clairement qu'une chose, l'amour. Appelons-le, si vous voulez, la bienveillance. Dans les évangiles, je ne vois que la bienveillance de la part de Dieu envers chacun et en particulier vers tous ceux que tous rejettent pour des questions sociétales, religieuses ou politiques. C'est ce que je vois. Pour ces exclus, je n'entends que des paroles qui relèvent, qui encouragent, qui guident et qui mènent vers plus de vie. Et pour tous, deux paroles au centre. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que j'entends. Frères et sœurs, la vie du chrétien ne marchera jamais ailleurs que sur le chemin que le Christ lui-même a montré. Chemin de paix et non de haine. Chemin d'accueil et non de rejet. Chemin de pardon et non de culpabilité. C'est le combat pour la dignité humaine. C'est ce que j'essaye modestement, comme vous, de vivre dans ma vie, avec mes proches, dans ma communauté et dans le monde, avec la force qui m'est donnée. Alors, fini les « Dieu veut que » ou alors les « C'est contre la volonté de Dieu » quand il s'agit d'instrumentaliser le tout autre pour condamner l'être humain. Qui suis-je pour juger mon frère ? Qui suis-je pour dire moi-même ce que Dieu veut ? Je vous invite à un temps de silence. Dieu Père, mets en nous assez d'humilité pour nous faire savoir que la seule chose que nous savons est que ne nous savons rien. Dieu Fils, mets en nous assez de confiance pour nous approcher de toi et toucher du doigt la vie d'amour que tu nous offres. Dieu Esprit, mets en nous assez d'audace pour recevoir de toi le souffle saint qui nous permet de t'aimer et d'aimer notre frère comme un autre nous-mêmes. Nous pourrons alors être tes témoins fidèles et le royaume de Dieu s'approchera. Nous serons ensemble en paix les uns avec les autres. Amen.